Bienvenue sur Radio Prague. Nous commençons par les informations. Par une rencontre avec les compatriotes tchèques à Lvov, le président de la République, Václav Klaus, a terminé sa visite de 3 jours en Ukraine. L'atténuation du régime de visa, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et l'Union européenne et le problème des travailleurs ukrainiens en Tchéquie ont été au menu des conversations de Václav Klaus avec son homologue Viktor Yushchenko. Au sommet de l'Union européenne à Bruxelles, le premier ministre Jiří Paroubek défendra la position tchèque qui est la suivante, continuer et prolonger le processus de ratification du traité constitutionnel après le non français et néerlandais. Jiří Paroubek s'est déclaré optimiste quant à la possibilité de trouver un consensus sur le budget de l'Union pour les années 2007-2013. L'engagement des soldats tchèques dans des missions de l'OTAN en Afghanistan, au Kosovo, en Irak et dans l'unité de protection antichimique a été apprécié par le secrétaire général de l'Alliance, Jaap de Hoop Scheffer, lors de sa première rencontre avec le premier ministre tchèque ce jeudi à Bruxelles. L'ancien président Václav Havel s'est vu décerner à Berlin un prix de l'organisation non gouvernementale La Campagne internationale pour le Tibet en reconnaissance de son soutien au Tibet. Aussitôt après son élection dans les fonctions de président, Václav Havel a invité à Prague le Dalai Lama et il était le premier président à le recevoir non seulement en tant que chef d'État, mais aussi en tant que leader religieux et spirituel. Le groupe de télécommunications espagnol Telefonica est devenu le propriétaire majoritaire de l'opérateur historique tchèque Český Telecom et de sa société sœur Eurotel, le premier opérateur des portables. Au fond du patrimoine national, Telefonica a payé 90% du prix de rachat qui dépasse 82 milliards de couronnes. Prague accueille 2 conférences scientifiques internationales, le Forum européen, une table ronde du Centre de recherche commun de la Commission européenne. Leur objectif est d'encourager l'intérêt pour les recherches, tandis que les États-Unis dépensent 2,8% du PIB à la science en Europe, c'est 1,9% seulement. Le ministère de la Justice demandera l'extradition de l'entrepreneur tchèque František Příplata, condamné en Roumanie à 8 ans de prison pour complicité du meurtre d'un leader syndicaliste perpétré en l'an 2000. Le verdict est sans appel en Roumanie. Un nouvel incident de violence à l'égard des médecins sécuristes s'est produit dans le 9e arrondissement de Prague. Un homme en état d'ivresse a cassé le bras un sécuriste qui l'aidait à monter dans l'ambulance. Il s'agit du 11e cas d'agression depuis le début de l'année à Prague. En ciel dégagé, les températures atteignant 25 degrés sont prévues pour vendredi, jour de la fête des Adolf dans le calendrier tchèque. C'était les informations par Jarka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour et merci d'être resté en notre compagnie. L'ouverture du sommet à haut risque d'une Union européenne en crise est suivie avec beaucoup d'attention également à Prague. À ce propos, nous écouterons les propos d'une Française, professeure d'université, sur l'avenir du processus d'intégration européenne. Depuis l'Ukraine, où il achevait ce jeudi une visite officielle, le président de la République, Václav Klaus, n'a pas manqué lui non plus de s'exprimer sur le sujet. À Kiev, il a jeté de l'huile sur le feu en comparant l'Union européenne à la défunte Union soviétique. Science et santé, des chercheurs de Liberec en Bohême du Nord mettent sur le marché le NanoSpider, une machine unique au monde servant à fabriquer des nanofibres. Nous vous en dirons plus dans quelques instants. Enfin, nous terminerons avec une note culturelle et les journées de la culture arabe qui battent leur plein un peu partout dans le pays. Bonne écoute à tous. Alors que ce jeudi s'ouvrait à Bruxelles le sommet de l'Union européenne qui promet des négociations houleuses autour de son budget pour les 7 années à venir, le président tchèque, au cours de son voyage officiel en Ukraine, a une fois de plus critiqué l'idée d'une Union comme super-État. Sa comparaison forte avec l'Union soviétique d'antan n'est guère une coïncidence dans le contexte d'un sommet de toutes les divisions où en filigrane c'est la définition même de l'Union qui est en jeu. Anna Kubishta.
C'est un peu le monde à l'envers. Alors que l'Union européenne connaît actuellement une de ses plus importantes crises depuis sa fondation, après le double refus de la Constitution par la France et les Pays-Bas, pourtant faisant partie des vieux routards de la construction européenne, d'autres pays ne demanderaient qu'à y entrer et le plus vite possible. C'est le cas de l'Ukraine qui, après avoir fait sa révolution orange en décembre dernier, avait par la bouche de son nouveau président élu, Viktor Yushchenko, immédiatement insisté sur ses valeurs communes avec l'Europe et, à l'horizon de ses ambitions, une intégration à l'Union européenne. Le président tchèque, Václav Klaus, se trouve justement depuis lundi dans le pays pour un voyage officiel de 3 jours. À l'ordre de sa rencontre avec l'ancien leader de l'opposition, aujourd'hui président, les problèmes liés au travail des Ukrainiens en République tchèque, l'assouplissement des conditions d'obtention de visa, mais aussi et surtout les perspectives d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et au sein de l'OTAN. Si officiellement le président Klaus soutient ces 2 candidatures, cela ne l'a pas empêché de refroidir les ardeurs pro-européennes des Ukrainiens lors d'une conférence de presse à Kiev. Certes, l'Ukraine ne se fait pas d'illusions et sait que la route est encore longue avant même de se lancer dans de quelconques négociations d'adhésion. Néanmoins, parce que la République tchèque est en quelque sorte l'Occident de l'Ukraine, comme la France ou l'Allemagne ont pu l'être dans le passé pour la République tchèque, en termes de modèle et de référence, elle est considérée avant tout comme un membre de cette Union européenne à laquelle l'Ukraine souhaiterait appartenir, cette même Union européenne qui aujourd'hui apparaît comme un colosse au pied d'argile. La question est, en effet, de savoir de quelle Union européenne on parle, à quelles valeurs on fait référence, à quel modèle économique on se rattache, en bref, quels sont les piliers de ce projet de vie commune à 25, a fortiori si l'on envisage un élargissement. C'est là que le bât blesse, et le président Klaus ne le sait que trop bien, quand, dans une tentative de mise en garde contre trop d'évangélisme pro-européen, il a comparé l'Union européenne à l'ancienne Union soviétique. S'il s'est déclaré un fervent partisan de la suppression des frontières pour la libre circulation des personnes et des capitaux, il a encore une fois critiqué ce qu'il considère comme une tentative de Bruxelles de faire de l'Union un État supranational. La référence à l'Union soviétique peut faire mouche dans un pays qui en a fait partie, quand on sait qu'elle a des résonances en Europe centrale même. Le président Klaus affine donc sa rhétorique entamée il y a longtemps, et l'actuelle crise identitaire de l'Union lui laisse toute latitude pour s'engouffrer dans la brèche créée par les 2 noms successifs à la Constitution. Une manière d'appuyer sa propre définition et vision de l'Union européenne, tandis que de plus en plus de voix dans les États membres s'élèvent en faveur d'une pause dans le processus de ratification. Et que la question même de l'élargissement fait pour l'heure figure d'un cadavre qu'on aurait placé dans un placard jusqu'à nouvel ordre. Une vision de l'Europe selon Václav Klaus qu'il propose donc à des aspirants à l'intégration, alors que ses fondateurs même sont plus divisés que jamais.
Quelle sera donc l'évolution du processus d'intégration européenne ? Il va de soi que la question ne préoccupe pas seulement, et de loin, les représentants politiques qui se sont réunis à Bruxelles. Écoutons par exemple l'interview qu'a réalisée à Bordeaux Magda Segertova lors d'un colloque consacré à Václav Havel. Geneviève Evan Grandboulan est professeure émérite à l'université François Rabelais de Tours.
D'abord, je vais être claire, j'étais en faveur du oui, même si j'ai voté par procuration parce que je n'étais pas en France à ce moment-là. Mais je pense que c'est un projet qui a été très mal présenté de façon très obscure parce que on peut pas présenter au peuple un texte qui fait des centaines de pages. Ça a un côté un peu ridicule. Et je pense, comme certains l'ont dit d'ailleurs, que si on avait réduit le texte à 10 pages sur le modèle de la Constitution américaine en parlant simplement de ce qui était vraiment l'objet constitutionnel, c'est-à-dire les modes de dévolution du pouvoir, la répartition et l'équilibre des pouvoirs, là on votait vraiment sur une constitution et puis il fallait laisser aux annexes et aux parlementaires le détail des traités parce que tout ça finalement n'était que détail et le peuple doit voter sur les grandes orientations, le reste c'est de la démocratie représentative, on n'a pas besoin de démocratie directe pour ça. Me semble-t-il, enfin c'est secondaire, dirons-nous, par rapport à l'organisation du pouvoir politique qui est l'objet d'une constitution comme la constitution américaine de 1787.
Et l'avenir de l'Europe, quel chemin va prendre le vieux continent d'après vous ?
Ça, je suis pas Cassandre et c'est très très difficile à dire. Certains disent que ça va continuer comme avant. J'en suis pas absolument sûre, mais je pense que c'est un moment de crise, mais qu'il y a eu de nombreuses crises, y compris sous le général de Gaulle qui avait introduit un certain nombre de crises. Les Français ont déjà provoqué un certain nombre de crises dans la Constitution européenne. Les Anglais aussi de temps en temps. Je crois que chacun son tour, on provoque des crises. Je dirais d'une certaine façon que ce sont des crises d'adolescence parce que l'Europe se construit quand même et progresse. Mais je crois qu'une des difficultés de l'Europe, et c'est c'est ce que disait Patočka, et le philosophe Jan Patočka, qui est mort, donc qui a vécu de 1907 à 1977 et qui est mort sur son lit d'hôpital, persécuté par la police à Prague, là, après avoir été le responsable majeur de la charte 77. Je crois que l'Europe, si vous voulez, se fonde sur un héritage judéo-chrétien, et que il disait dans ses œuvres qu'il fallait avoir le souci de l'âme, le souci platonicien de l'âme, c'est-à-dire que si on part pas des valeurs spirituelles, on fera jamais une Europe durable, parce que ce qui unit les Européens, c'est un certain socle de valeurs.
Après l'invention d'une machine capable de fabriquer les nanofibres, les chercheurs de l'Université technique de Liberec sont passés à la phase suivante, la production industrielle des machines à nanofibres. Plus de précisions avec Alain Slivinski.
Nous en avons déjà parlé sur les ondes de Radio Prague. Les chercheurs de l'Université de Liberec, en tant que premiers au monde, ont réussi à maîtriser la technologie de la production industrielle des nanofibres, l'avenir du génie cellulaire. Les nanofibres devraient être utilisées surtout sous la forme de pansements et de médicaments. Grâce aux qualités de ces fibres, d'un diamètre de moins d'un millionième de millimètre, les plaies seront guéries plus rapidement et mieux. Les nanofibres, jusqu'à maintenant, n'étaient produites qu'en laboratoire, alors que les chercheurs de Liberec ont inventé une machine capable de produire des tissus en nanofibres à l'échelle industrielle, le nanospider. Cette machine va commencer à être fabriquée par l'entreprise Elmarco de Liberec en coopération avec la société irlandaise Ultracell. Comme le rapporte le quotidien Mladá Fronta Dnes de ce mardi, dans un entretien avec le directeur de l'entreprise Elmarco, Ladislav Mareš, les premiers nanospiders devraient être sur le marché d'ici à la fin de cette année. D'un autre côté, l'entreprise pense, du moins au début, produire elle-même les nanofibres, cela pour la société irlandaise Ultracell, spécialisée dans la vente des tissus employés dans le génie cellulaire. Et l'utilisation des nanofibres? Selon Ladislav Mareš, le choix est des plus larges, pansements capables d'arrêter les hémorragies, protégeant des bactéries, mais aussi servant au traitement. En effet, la machine est capable de produire des tissus en nanofibres renfermant des médicaments ou d'autres matières, par exemple de l'argent, qui tue toutes les bactéries autour de la plaie. Avec les nanofibres, on peut fabriquer beaucoup de matériaux employés en chirurgie, mais aussi tous les tissus indispensables dans le génie cellulaire. Des cartilages artificiels de l'épiderme, des SMART, comme on appelle par exemple le remplacement de parties endommagées de la colonne vertébrale, des os artificiels. Les possibilités sont énormes. À part la médecine, les nanofibres pourraient être utilisées dans l'industrie textile, une industrie qui faisait vivre dans le passé la région de Liberec justement. Pour l'instant, c'est un domaine qui reste à l'étude. Ajoutons encore que la mise sur le marché du nanospider, très rapidement après son invention, est due à la coopération étroite entre la sphère universitaire et le secteur privé. Sans elle, l'Université technique de Liberec n'aurait pas eu les moyens de faire de grands progrès dans le domaine de la recherche en si peu de temps. Un exemple de coopération que devrait suivre, d'après les chercheurs de Liberec, tout le milieu universitaire tchèque.
Connaît-on la culture et la civilisation arabe? Notre vision du monde arabe n'est-elle pas influencée par notre manque d'informations et nos préjugés? Il faut se rendre à l'évidence, les informations dont nous disposons ne donnent qu'une image partielle et déformée de cette culture ancienne qui connaît aujourd'hui une évolution dynamique. C'est pourquoi on organise en République tchèque du 14 au 21 juin les journées culturelles arabes. Václav Richter a demandé plus de précisions sur cette manifestation, qui est la première en son genre en République tchèque, à l'ambassadeur de Tunisie à Prague, M. Monsef Larbi.
L'idée d'organiser donc ces journées culturelles arabes remonte à environ il y a 2 ans, et c'était à l'initiative du Conseil des ambassadeurs arabes accrédités à Prague, et en collaboration avec des associations tchèques, notamment l'association d'amitié arabo-tchèque, et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la mairie de Prague. Et tout s'est bien déroulé jusqu'ici. Actuellement, ces journées sont donc en cours. L'ouverture a eu lieu donc le 14 juin au ministère des Affaires étrangères, et ces journées donc se continuent. Le but donc de ces journées culturelles arabes, c'est de donner une vue d'ensemble de la culture arabe contemporaine, de donner un aperçu au arabe contemporain, de lui donner une idée à travers des expositions de peinture, des expositions de photographie, des expositions de produits de l'artisanat arabe, ainsi que des projections de films.
Qu'est-ce que la culture arabe peut donner, à votre avis, à la civilisation européenne et particulièrement à la République tchèque ?
Écoutez, déjà, il faudrait rappeler que la civilisation arabe, la culture arabe, a par le passé contribué à la civilisation universelle. Actuellement, la culture arabe est une culture très variée, très vivante, qui pourrait donc entrer en contact avec les autres cultures. Elle est déjà en contact avec les autres cultures. Et le but, c'est de faire connaître davantage cette culture qui est peut-être méconnue, qui n'est pas tout à fait perçue d'une manière exacte.
Soyons donc plus concrets, comment la Tunisie participe aux journées culturelles arabes en République tchèque ?
Voilà. Cette participation se concrétise à travers 3 ou 4 volets. Premièrement, une exposition de peinture tunisienne au palais Martiniki. C'est un endroit formidable d'ailleurs. Et donc là, nous exposons une 20aine de tableaux de peinture tunisienne très connus, tels que Hedi Turki, Ali Bellaga, et qui ont été un peu les fondateurs de ce qu'on appelle l'école de Tunis des années 60. C'est une école qui a voulu marier la peinture classique arabe à la peinture occidentale. Et donc, ce sont des gens très connus, mais aussi il y a également des peintres plus jeunes qui appartiennent à la génération actuelle. Et parallèlement aussi, il y a une exposition de livres tunisiens et d'ouvrages dans de belles éditions très luxueuses, etc., et qui donne une idée du secteur de l'édition en Tunisie, qui est un secteur très dynamique. Le public pourrait voir des ouvrages en arabe, mais aussi en français et même en anglais. Voilà, donc c'est le premier volet de cette participation tunisienne. Il y a également une exposition de photographies d'art, qui sont dues à un photographe tchèque qui s'appelle Monsieur René Novak, et qui sont exposées actuellement au Centre culturel de Branik, oui. Et on peut admirer ces très très belles photos qui disent la Tunisie vue par un photographe occidental, et en l'occurrence un peintre tchèque.
Quel est jusqu'à présent le retentissement de ces activités ?
Écoutez, jusqu'à présent, nous avons constaté qu'il y a une participation nombreuse. Le public participe de façon assez importante à ces manifestations. Parallèlement aussi, il y a un festival de films. Il y a une quinzaine peut-être de films arabes qui sont projetés, dont 2 films tunisiens. L'un s'appelle « Un été à la Goulette », qui est l'œuvre de M. Ferid Bogdir, et un autre film qui s'appelle « El Koutoubia », qui est une réalisation de M. Naoufel Sahab Attaba. Et voilà, et donc c'est ces films qui seront projetés dans la salle de cinéma. La NIC pourrait donner une idée du cinéma arabe actuel. Il y a bien entendu d'autres films algériens, syriens, égyptiens et tout. Et cela donc, finalement, devrait donner une idée assez précise sur cette culture arabe que nous voulons faire connaître un peu ici en République tchèque.
C'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Joy Adamson, auteur de l'histoire d'Elsa la Lionne et La Brousse et ma patrie, s'appelait Friederike Victoria Gessner et était d'origine tchèque. Ses ouvrages exquis ont vraiment fait le tour du monde, sans parler de l'énorme succès du film, dans les rôles de Joy et George Adamson, Virginia McKenna et Bill Travers. Joy et son troisième mari, George, ont consacré leur vie à la lutte contre les braconniers et le massacre illégal des animaux pour le commerce de défense d'éléphants et de peaux. Ils étaient les premiers à apprendre aux animaux capturés à vivre à l'état sauvage et de les réintégrer à la nature. Friederike est née le 18 janvier 1910 à Opava, en Silésie. Elle y passe une partie de son enfance dans la maison de son grand-père, Karel Weishun. C'était un grand entrepreneur qui exploite plusieurs domaines. Il flotte du bois, gère minoterie et scierie et construit des chemins de fer. Lors d'une visite chez son grand ami Thomas Edison, il découvre aux États-Unis une nouvelle méthode de production de papier de bois d'emballage. À son retour en Bohême, il profite immédiatement de sa nouvelle expérience pour mettre sur pied une production de sachets en papier. Mais revenons à Joy, que l'on appelait Fifi. Elle a une épaisse crinière rousse et court à travers bois avec les enfants de son âge. Fifi adore nager, jouer au tennis et est passionnée par les histoires sur les animaux. Elle a 12 ans lorsque ses parents divorcent. Un choc pour la petite qui déménage alors avec sa mère à Vienne. Elle vit dans la maison de sa grand-mère qui lui apprend à chanter, jouer du piano et à monter à cheval. Friederike est aussi très douée pour le dessin, la photo et le modelage. Elle fait des études de sculpture à l'Académie des Arts. La mort de son père provoque encore un choc. Pour apaiser sa douleur, elle se lance dans les études de médecine et porte son attention surtout sur la psychologie. Elle est tellement fascinée par Sigmund Freud qu'elle pense sérieusement à faire une carrière de psychothérapeute. Mais Friederike ne terminera jamais ses études de médecine, car à 25 ans, elle épouse Victor von Clarville. 2 ans plus tard, elle s'embarque pour Mombasa. En Afrique, la jeune femme veut reprendre des forces et retrouver le moral après un avortement. D'ailleurs, suite à ce fait, elle ne put jamais avoir d'enfant. Déjà à bord, elle tombe amoureuse de Petr Pali, botaniste suisse. À son retour en Autriche, Friederike divorce de Victor pour épouser son botaniste. Le couple repart en Afrique peu après la cérémonie nuptiale en mars 1938. Petr Pali n'arrive pas à prononcer le nom compliqué de sa femme et décide de l'appeler Joy. Après 4 ans de vie commune, Joy et Petr se séparent de façon très correcte. Puis Joy rencontre George Adamson. Il est anglais et travaille comme gérant de safari et guide au Kenya. Elle l'épouse en 1944. Ce sera l'homme de sa vie qu'elle ne quittera plus. Joy participe à des expéditions de recherche, dessine des portraits d'indigènes de différents groupes ethniques, prend des photos de la flore de l'Afrique orientale. D'ailleurs, Joy Adamson a illustré 7 livres sur la flore et la faune africaine qu'elle a complété avec des échantillons dont elle a enrichi la collection du Jardin botanique royal à Kew de Londres. La vie relativement tranquille du couple change lorsque George tue une lionne qui l'agresse. Malheureusement, c'est la mère de 3 ravissants lionceaux. Le plus petit des 3 s'appellera Elsa. Après 6 mois, les Adamson remettent les 2 lionceaux au jardin zoologique de Rotterdam et ne gardent qu'Elsa. Mais ils étaient bien conscients que la fin de leur vie commune ne n'était qu'une question de temps. Un jour, Elsa devra retourner à la vie, à l'état sauvage. La première tentative de lâcher Elsa se passe en 1958 dans la réserve de Masai Mara au Kenya. Elsa supporte difficilement le premier contact avec la nature. Elle tombe malade. Il faut donc attendre qu'elle guérisse pour la transporter dans la réserve de Meru. George et Joy y viennent observer la lionne 1 fois par semaine. Elle arrive à chasser toute seule une antilope, mais n'arrive pas trop à prendre contact avec les autres lions. Elle reste un peu à part, isolée. Mais finalement, tout se passe bien. Elsa trouve le lion de son cœur et accouche de 3 lionceaux en février 1960. La lionne amène ses petits à une Joy tout à fait ravie. Bientôt, le territoire d'Elsa est menacé par des braconniers. La lionne laisse ses petits dans le camp de George et de Joy pour les protéger. Les lionceaux dévastent gaiement les lieux. La même année, Joy Adamson publie son livre « La brousse et ma patrie », un succès fou. Les bénéfices de la vente du livre servent à financer les activités de la Foundation Elsa Conservation Trust, qui soutient différents projets de sauvegarde des animaux sauvages. Elsa meurt d'une infection parasitaire en janvier 1961. Joy et George l'enterrent dans la réserve de Meru. Ils transportent les trois lionceaux d'Elsa à la réserve nationale de Serengeti en Tanzanie, où ils s'adaptent facilement aux lois de la vie sauvage. Les Adamson ne les reverront plus. Désormais, ils appartiennent à la nature de l'Afrique. Joy vivait dans la réserve de Shaba, au nord de la réserve nationale de Meru. Elle préparait des léopards élevés en captivité à la vie à l'état sauvage. Le soir du 3 janvier 1980, on ne voit pas Joy revenir de sa promenade. Le lendemain, elle est retrouvée morte suite à des coups de poignard dans la poitrine. Quelques jours plus tard, Paul Ekai, jeune employé de la réserve, avoue son crime. Il est condamné à perpétuité. Les cendres de cette femme admirable sont dispersées sur la tombe d'Elsa et du guépard femelle Pipa, dans la réserve nationale de Meru. Pipa faisait partie des animaux auxquels Joy a appris à vivre dans la nature sauvage. Le mari de Joy, George, a subi le même sort que sa femme. Il a été assassiné le 20 août 1989 par trois braconniers près de Kampia Simba, au nord du Kenya. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Nous vous remercions de votre attention et restons toujours prêts à vos idées, remarques et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.